Lizzy présente Une femme simple et honnête de Robert Goulric. Lu par Xavier Percy. À Jeanne Volz, qui fit preuve à mon égard d'une bonté que je ne m'accordais pas à moi-même, avec mon amour et ma gratitude éternelle, et à mon frère et à ma sœur bien-aimée, B. et Lindley. Ne vous laissez point abattre. L'affection encore viendra résoudre les problèmes de la liberté. Ceux qui s'aiment deviendront invincibles. Walt Whitman, Au-dessus du carnage. Première partie, Wisconsin, automne 1907. Chapitre 1. Le froid était glacial, l'air électrique, chargé de tout ce qui allait advenir. Le monde se tint en arrêt, à 4 heures pile. Rien ne bougeait, nulle part, pas un corps, pas un oiseau. Une seconde durant, il n'y eut que le silence et l'immobilité. Des silhouettes gelées sur la terre gelée, hommes, femmes et enfants. Si vous aviez été là, vous n'auriez rien remarqué. Pas même votre propre immobilité dans ce maigre espace-temps. Mais si, présent, vous aviez par quelque moyen occulte enregistré cette immobilité, si vous en aviez imprimé le négatif comme la plaque de verre imprime la lumière, pour le développer plus tard, vous auriez su, une fois cette pensée, ce souvenir finalement révélé, que c'est à cet instant précis que tout commença. Le tic-tac de l'horloge. L'heure frappa ses coups. Tout se remit en marche. Le train était en retard. Il ne neigeait pas encore. Ce serait pour bientôt. Le blizzard, on le sentait dans l'air. Une couche de neige piétinée recouvrait déjà le sol. Ici, la terre se dérobait au regard, disparaissait dans l'horizon noir sans que l'œil pût en retenir le moindre détail. Le chaume, transperçant la neige, affûtait comme un rasoir. Les corbeaux picorant la terre stérile. Le fleuve noir coulait d'huile figée. Rien ne dit que l'enfer flambe, pensa Ralph Truitt, planté dans son costume sobre sur le quai de cette gare minuscule, à la gerçure de nulle part. L'enfer peut bien ressembler à cela, plus sombre de minute en minute, si froid que la peau se rétracte sur les os. Il se tenait debout au milieu de la foule, dans une immense solitude. Il lui semblait que, dans ce vaste espace gelé où se déployait toute sa vie, où chaque main mendiait, où chaque cœur réclamait quelque chose de lui, tous avaient une raison d'être et un endroit où s'ancrer. Tous, sauf lui. Pour lui, il n'y avait rien. Sur toute cette terre froide et amère, pas même un endroit où s'asseoir. Ralph Truitt consulta sa montre en argent. Le train était bien en retard. Tous autour de lui le dévisageaient. Il savait. Il avait compté sur ce train. Il serait à l'heure, aujourd'hui. À la minute près, leur avait-il annoncé. Il avait exigé la ponctualité comme d'autres auraient passé commande d'un steak saignant ou à point. Et voilà qu'il se retrouvait là comme un imbécile, livré à leur regard. Et quel imbécile! Il avait échoué jusque dans ce petit détail. Cette ultime étincelle d'espoir ferait long feu. Il était homme à obtenir ce qu'il voulait. 20 ans auparavant, ses premiers deuils, la perte de sa femme, de ses enfants, des plus beaux espoirs de son cœur et de ses derniers rêves de grandeur, l'avaient plongé dans la stupeur. Depuis, sa seule défense contre l'effroi avait été de se montrer effroyable dans ses attentes. La plupart du temps, la posture était efficace. Il se révélait impitoyable, Et en ville, on le respectait pour cela, on le craignait même. Et voilà que le train était en retard. Sur le quai autour de lui, les habitants de sa ville l'épiaient en faisant les 100 pas, l'impatience désinvolte, comme si leur manège avait un autre sens que celui d'observer Ralph Truitt guettant un train en retard. Il plaisantait, il riait, mais il parlait à voix basse, pour ne pas ajouter l'irrespect à l'échec de Ralph Truitt. Le train était en retard. Il sentait la neige dans l'air. Il savait que la tempête serait bientôt là. De même qu'il y avait au printemps un jour particulier où toutes les femmes de la ville, comme répondant à quelque signal secret, apparaissaient brusquement en robe d'été avant les premiers signes de redoux, il y avait aussi un jour où l'hiver dénudait la lame du couteau, avant la première lacération. Ce jour-là était venu, le 17 octobre 1907. 4 heures, et déjà presque la nuit. Tous, jusqu'au dernier, gardaient un œil sur le ciel et l'autre sur Ralph. Ils attendaient, observant l'attente de Ralph, échangeant des regards chaque fois qu'il consultait sa montre en argent. Le train était en retard. « Ça lui apprendra !» pensaient certains, surtout les hommes. D'autres, surtout les femmes, nourrissaient des pensées plus clémentes à son égard. Peut-être qu'enfin, après toutes ces années... Ralph savait qu'il parlait de lui, et que leurs sentiments, si complexes fussent-ils, s'exprimaient à voix haute dès qu'il avait le dos tourné, après qu'il les avait salués en effleurant le bord de son chapeau avec cette civilité qu'il montrait à la face du monde au prix d'une âpre lutte quotidienne. Il le lisait dans leurs yeux. Chaque jour de sa vie, il l'avait lu dans leurs yeux. Leur déférence volubile, l'inévitable ricanement que leur inspirait son passé. S'y glissait parfois une gentillesse dans un murmure, parce qu'il subsistait chez Ralph, encore aujourd'hui, de quoi émouvoir un cœur compatissant. Ralph savait que la ruse, c'était de ne pas céder, de ne pas courber les épaules contre le froid, de ne pas taper des pieds, de ne pas souffler dans ses paumes frigorifiées. La ruse, c'était d'accueillir le froid, d'accepter qu'il serait là pour longtemps, de se reposer sur son souffle, comme s'il était un vent tiède et printanier. La ruse, c'était de se fondre à lui pour ne pas se retrouver, au soir d'une journée éreintante, les épaules raides et douloureuses et les mains écarlates. « Il est des choses auxquelles on échappe », pensa-t-il. « Mais contre la plupart d'entre elles, on ne peut rien et le froid en fait partie. On n'échappe pas à ce qui est écrit pour nous, surtout au pire. La perte de l'amour, la déception, le fouet aveugle de la tragédie. Aussi Ralph se tenait-il le torse bombé, inflexible, insoucieux de la température et endurci contre les commérages, le regard fixé sur les rails qui allaient se perdre au loin. Il était plein d'espoir. N'en revenait pas d'espérer encore, d'espérer qu'il était présentable, ni trop vieux, ni trop stupide, ni trop hostile. Il espérait, ne fût-ce que pour cette heure précédant la neige qui les cloîtrerait tous entre quatre murs, que l'agitation de son âme, sa solitude inconsolable demeurerait invisible. Il s'était appliqué à être un homme bien, et il n'était pas un mauvais homme. Passé le premier désir et la première désillusion, il s'était efforcé de ne plus rien convoiter. Mais voilà qu'il désirait quelque chose. Et son désir l'alarmait et le mettait en rage. En s'habillant pour se rendre à la gare, Ralph avait aperçu le reflet de son visage dans l'un des miroirs. Cette vision l'avait choqué. L'empreinte laissée par le chagrin et la condescendance sur sa figure l'avait ébranlée. Tant d'années de haine, de fureur et de regret.